chronique santé aujourd'hui avec Valérie Papapietro, qui est gastro-entérologue, et nous allons parler du microbiote intestinal. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire bactéries, virus, parasites, champignons non pathogènes, qui vivent dans un environnement spécifique. Dans l'organisme, il existe différents microbiotes au sein de la peau, de la bouche, du vagin. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement au microbiote intestinal, dont le rôle est de mieux en mieux connu, puisque la recherche tente aujourd'hui de comprendre les liens entre les déséquilibres du microbiote et certaines pathologies, en particulier les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes, ainsi que certaines maladies neurologiques. Le microbiote intestinal est le plus important d'entre eux, avec environ 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes, c'est-à-dire 2 à 10 fois plus que le nombre total des cellules qui constituent notre corps, pour un poids d'environ 2 kg. Il est principalement localisé dans l'intestin grêle et le côlon, ou le gros intestin, et il comporte plus de 3000 espèces différentes, dont une large majorité est d'origine bactérienne. La présence de ce micro-organisme dans l'intestin est connue depuis plus d'un siècle, et on a vite compris qu'il existait une véritable symbiose entre notre organisme et cette flore. Mais jusqu'à récemment, les moyens techniques permettant d'étudier les détails de cette interaction étaient limités et seule une minorité d'espèces bactériennes du microbiote était connue. La mise au point de nouvelles techniques de séquençage du matériel génétique a donné un nouvel élan à cette recherche et il existe aujourd'hui un réel engouement de la recherche pour décrire la nature des interactions hôtes microbiote, celle des micro-organismes entre eux et leur incidence en matière de santé.
Alors, le microbiote serait-il propre à chaque individu ?
En effet, un peu comme nos empreintes digitales, le microbiote intestinal est propre à chaque individu. Il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif. Parmi les 160 espèces de bactéries que comporte en moyenne le microbiote d'un individu sain, une moitié est communément retrouvée d'un individu à l'autre, avec un socle commun de 15 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote. Alors que le tube digestif du fœtus est stérile, le microbiote d'un individu va se constituer dès sa naissance, au contact de la flore vaginale après un accouchement par voie basse, ou au contact des micro-organismes de l'environnement pour ceux qui sont nés par césarienne. L'allaitement maternel, ensuite, agit comme un milieu sélectif pour les bactéries non pathogènes. La colonisation bactérienne se fait ensuite de façon progressive, sous l'influence de la diversification alimentaire, de la génétique, du niveau d'hygiène, des traitements médicaux reçus et de l'environnement. La composition du microbiote intestinal va évoluer qualitativement et quantitativement pendant les premières années de la vie, puis se stabiliser. Toutefois, des traitements médicaux, des modifications d'hygiène de vie ou différents événements de la vie peuvent modifier le microbiote de façon plus ou moins durable.
Et quelle est la fonction de ce microbiote intestinal ?
Alors, le microbiote intestinal est essentiel puisqu'il joue un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Sur le plan digestif, il facilite l'assimilation des nutriments grâce à un système enzymatique dont l'organisme humain n'est pas pourvu. Il participe à la synthèse de certaines vitamines et il assure la régulation de plusieurs voies métaboliques. Le microbiote intestinal participe aussi pleinement aux fonctions du système immunitaire. D'une part, il est indispensable au rôle de barrière de la paroi intestinale, soumise dès la naissance à un flot d'antigènes d'origine alimentaire ou microbienne. D'autre part, dès les premières années de la vie, il est nécessaire pour que l'immunité intestinale apprenne à distinguer entre espèces pathogènes et non pathogènes. Sur le plan neurologique, le microbiote intestinal participe à la transmission des informations au système nerveux central par l'intermédiaire du système neurovégétatif, notamment en régulant la sécrétion de certaines hormones comme la sérotonine qu'on appelle l'hormone du bonheur.
Alors, existe-t-il des maladies liées à un déséquilibre de ce microbiote intestinal ?
Oui, on parle de dysbiose. La dysbiose, c'est-à-dire l'altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale, est une piste sérieuse pour comprendre l'origine de nombreuses maladies, notamment celles sous-tendues par des mécanismes auto-immuns ou inflammatoires, dont l'incidence est en constante augmentation dans les pays de plus en plus nombreux qui adoptent le mode de vie occidental. Les maladies inflammatoires digestives, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, mais aussi l'obésité, le diabète, certains cancers comme les cancers digestifs et le cancer du sein, ainsi que des maladies neuropsychiatriques comme l'autisme, l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, pourraient être en partie liées à un déséquilibre de notre microbiote intestinal. Par exemple aussi, le problème de la dépendance au sucre, grande pourvoyeuse d'obésité, pourrait s'expliquer par la sélection de bactéries avides de sucre dans notre microbiote. En conclusion de cette chronique, je voudrais rappeler l'importance pour chacun de bien nourrir son microbiote intestinal pour rester en bonne santé. Une alimentation riche en fibres alimentaires, qui sont le principal substrat énergétique pour les bactéries de notre intestin et qui sont contenues dans les végétaux, est essentielle. Manger régulièrement, c'est-à-dire tous les jours et à chaque repas, des fruits et des légumes, si possible bio, éviter la prise d'antibiotiques quand elle n'est pas nécessaire, limiter le plus possible la consommation de sucres raffinés et d'aliments ultra transformés qui entretiennent l'inflammation chronique. On peut aussi utiliser des probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants, levures ou bactéries, susceptibles d'agir sur le microbiote intestinal. Ces microbiotes pourraient être intéressants dans certaines indications, comme prévenir une diarrhée liée aux antibiotiques, améliorer le confort digestif, limiter les allergies et les infections respiratoires hautes. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour vous aider à vous repérer parmi les nombreuses marques. Enfin, vous pouvez aussi consommer des aliments lactofermentés comme le kéfir ou les yaourts.
Merci docteur pour cette chronique que vous avez consacrée aujourd'hui au microbiote intestinal. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique consacrée à la santé et vous trouverez les adresses du Réinfo Covid et du Réinfo Santé sur le site de la Radio Plus à la rubrique podcast.